journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, Initlé, bienvenue dans le journal des auditeurs. Aujourd'hui dans le journal des auditeurs, une émission spéciale à Bamako au Mali à l'occasion de l'exposition Black Queen en place de la Libre Antenne. Nous avons invité nos confrères maliens pour avoir leur regard sur l'actualité. Nous sommes depuis les studios de la chaîne 2 de l'ORTM2.
Alors,
voilà, vous venez d'entendre, ça va, vous connaissez normalement déjà sur Africa numéro 1. Idrissa Diakité est avec nous. Bonsoir Idrissa, bonjour, merci
bonjour,
d'être là.
Bonjour, bonsoir, pour que vous soyez bienvenue à Bamako.
Merci de nous accueillir, Idrissa. Je rappelle, c'est le correspondant historique et fidèle d'Africa numéro 1 à Bamako. Et vous êtes journaliste aussi, on peut le dire, pour l'ORTM. C'est ça. Nous sommes également en compagnie d'Isaï Dounion. Isaï Dounion, bonjour.
Lévi Dounion.
Lévi Dounion, toutes mes excuses, dis donc, mes informations sont mauvaises. Hein. On nous excusera pour la préparation, il fait chaud ici à Bamako.
Soucis, pas de soucis, pas de soucis.
Alors, Lévi, vous êtes directeur de la publication du journal Les Échos.
Oui.
Les Échos, journal historique, on va en parler dans quelques instants. Mais messieurs, avant d'avoir votre regard sur l'actualité, un tour du côté du répondeur d'Africa numéro 1 pour écouter les messages des auditeurs.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Bonjour messieurs et madame. Je vais laisser un message pour les Congolais. Vous Congolais qui avez toujours soutenu Kabila. Vous Congolais qui êtes encore sous domination de Kabila alors qu'il n'est plus président. Vous Congolais qui se laissent encore commander par ces messieurs croyant qu'il redeviendra encore président au Congo. Je vous appelle à vous désolidariser de ces messieurs parce qu'il ne sera plus jamais président au Congo. Personne acceptera un retour de ces messieurs qui n'a jamais aimé le Congo. Je répète, personne acceptera un retour de ces messieurs qui n'a jamais aimé le Congo. Chers Congolais, je vous prie d'aimer vraiment le Congo, notre pays. Kabila ne travaillait pas pour l'intérêt du Congo. Il travaillait pour son pays d'origine, le Rwanda. Congolais, désolidarisez-vous de ces messieurs. Il doit répondre devant la justice aux actes de bavure que le peuple congolais a subi pendant 20 ans. C'est un Congolais qui aime bien son pays. C'est Henri.
Bonjour aux auditeurs africains et un bonjour particulier à tous les Camerounais. Mon appel de ce matin est un appel de détresse. La crise anglophone qui secoue les zones du nord et du sud-ouest s'approche lentement et sûrement vers la zone du littoral. Malheureusement, nos hommes politiques n'ont pas pris à cœur le problème qui nous arrive. Mais quand on regarde les télévisions camerounaises, on voit que les débats qui sont supportés par les pontes du régime RDPC continuent à nier la crise qui nous secoue. Si on n'arrive pas à maîtriser cette crise-là, c'est tout le Cameroun qui sera embrasé. Et ce n'est pas le souhait des Camerounais. Donc je voudrais aussi également dire à mes frères d'expression anglophone que nous avons tous un combat. C'est le bien-être de tous les Camerounais. Mais si vous commencez à brûler tous les édifices du Cameroun, on ne s'en sortira pas. Il est vrai, M. Paul Biya, ça fait longtemps qu'il est là et il ne pense pas à partir. Mais s'il ne pense pas à partir, il n'est pas inutile qu'on vous rappelle que le Cameroun nous appartient à tous. C'est ce que je voulais vous dire. Bonne journée à tous et à plus tard.
Bonjour à tous les directeurs d'Africa numéro 1. Je suis vraiment dépassé sur le manque de priorité du président sud-africain Faustin Archange Touadéra. Je ne comprends pas comment on peut qualifier cette crise d'autorité. Un président élu démocratiquement qui se fait gérer par des groupes armés, des accords sur accords, aucun accord n'est respecté. Et là, les groupes armés, vous signez un accord avec eux, je ne sais pas pourquoi on les appelle pour qu'ils viennent participer au débat et trouver des solutions pour le pays, des bandits comme ça qui tuent la population, je ne sais même pas pour quelle cause. Ils obligent un gouvernement démocratique, des postes régaliens dans le gouvernement pour qu'ils fassent je ne sais quoi. C'est incroyable ça. Et les gens ne savent pas ce qui se passe en Afrique. Merci, William.
Oui, bonjour Africa numéro 1. Aujourd'hui, je suis en colère. Je demande, quand les Barkhane sont arrivés au nord du Mali, et les missements casques bleus qui sont arrivés au nord du Mali, il y avait les crises au nord du Mali. Aujourd'hui, la crise s'est déplacée, arrivée au centre du Mali. Les gens qui vivent au centre du Mali, à Monti, à Djéné, ces gens-là, ils sont déplacés, ils sont arrivés jusqu'à Bamako. Ces gens-là, ils ne dorment pas. L'armée internationale, ils sont au Mali, au territoire du Mali. Les Pays-Bas, Allemagne, Grande-Bretagne, la Chine, les États-Unis, la Côte d'Ivoire et le Burkina, Sénégal, les CEDEAO et toute l'armée internationale, ils sont au territoire du Mali. Moi, depuis au début, quand ils ont dit qu'ils vont faire l'intervention au Mali, j'ai dit ces gens-là, c'est pour aller jouer le Coupe du Monde au Mali. Les Africains, réveillez-vous. Vous connaissez le Coupe du Monde? C'est un gâteau à partager. Arrêtez, ça suffit maintenant. Les peuples maliens, ils sont fatigués. Les Africains, ils sont fatigués. J'ai dit bravo au Cameroun. Paul Biya qui a refusé d'appeler l'armée française de venir faire l'intervention au Cameroun. Que Dieu bénisse l'Afrique. Merci, bonne journée, au revoir.
Bonjour chers amis du JDA. Oui, j'interviens concernant l'école ivoirienne. L'école ivoirienne est bien partie pour avoir une année blanche cette année encore. Et la preuve, c'est que hier, les étudiants ont commencé à manifester, on a commencé à les taper dessus. La police de Ouattara les tape dessus. Il y a eu même un étudiant qui a eu la jambe cassée, deux qui ont eu le bras cassé, et la police les charge parce que ils manifestent. La police arrête les enseignants parce qu'ils revendiquent leurs droits. Mais on va où là et on est où dans ce pays? On est dans un pays qu'on ne peut pas manifester pacifiquement. Ce n'est pas les manifestants qui cassent tout ou qui font des choses, qui posent des dégâts. Mais les gens manifestent pour revendiquer leurs droits. Ben non. Ou à travers chargés par la police, on les tabasse, on gèle leur avoir, on confisque leur salaire. Ben je ne comprends pas. Et comme certainement ils n'ont pas été longtemps à l'école ou ils ne savent pas que l'éducation est la base de tout, ben ils empêchent les enfants d'aller à l'école, ils empêchent les enseignants de faire leur travail. Est-ce que cela est normal? Je n'appellerai pas ça moi de la dictature, mais je dirais que c'est de l'incompétence. Ici, quand on voit des manifestants qui ne savent pas, mais on met tout le monde au garde-boue, que ce soit les policiers ou autres, mais en Côte d'Ivoire, non, la police tape. Merci, chers amis du JDA.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages. Aujourd'hui, dans le journal des auditeurs, je le disais, émission spéciale enregistrée depuis la chaîne 2, les studios de la chaîne 2 à Bamako, c'est au Mali. Nous sommes ici depuis quelques jours à l'occasion de l'exposition Black Queen, une exposition d'abord présentée à Paris et dont les fonds iront au centre Niali pour les enfants de Gao. L'exposition a été inaugurée ce mardi à Bamako. Alors à cette occasion, on a voulu profiter de notre passage à Bamako pour aller à la rencontre de nos confrères journalistes pour avoir leur regard sur l'actualité africaine et internationale. Alors, avant de commencer, un très grand merci à la chaîne 2, à la deuxième chaîne nationale et particulièrement à Monsieur Kodjo qui nous a permis d'enregistrer cette émission dans ce studio. Merci encore, merci beaucoup. Alors, pour cette édition spéciale, je le disais, nous sommes en compagnie d'Idrissa Diakité, correspondant historique et fidèle d'Africa numéro 1 à Bamako, journaliste pour l'ORTM, et Lévi Dougnon, directeur de la publication du journal Les Échos. Alors, messieurs, trois sujets seront soumis à vos commentaires et à vos regards aiguisés, j'ai envie de dire. Nous parlerons de la contestation en Algérie qui ne faiblit pas et de la crise des gilets jaunes en France. Avant cela, quand même, on est à Bamako, au Mali. Difficile de ne pas dire un mot sur la situation sécuritaire. Dimanche, un camp militaire à Dioura, dans le centre du pays, a été attaqué par des terroristes. Le bilan est de 23 soldats tués. Lundi, le ministre de la Défense, Tiémoko Sangaré, des responsables de l'état-major, se sont rendus sur place. L'armée soupçonne l'un des leurs, un déserteur qui aurait rejoint les groupes armés, Bahag Moussa. Et l'opposition demande au président Ibrahim Boubacar Keïta de prendre des mesures d'urgence. Première question, Lévi Dougnon, est-ce que cette attaque signe-t-elle la naissance d'un groupe armé et qui est Bahag Moussa?
Oh non, je ne crois pas que ça soit la naissance d'un groupe lié à Ba Moussa, mais c'est plutôt un groupe qui est affilié à Ansardine de Iyada Gali.
D'accord.
Donc je pense que c'est toujours ce même groupe
hein, qui sévit.
Voilà, qui sévit dans cette partie du Mali.
Alors, la réponse du gouvernement vous paraît-elle à la hauteur? L'opposition a demandé des mesures urgentes. Le gouvernement s'est rendu rapidement hein, sur les lieux, chose qu'il n'a pas toujours fait. Est-ce que pour vous, il y a une vraie prise de conscience de ces problèmes sécuritaires ou malheureusement, commence à s'habituer avec ces attaques?
Bon, une vingtaine de morts, c'est quand même trop. C'est excessivement trop. Donc, on ne peut pas rester indifférent à un tel dégât. Donc, le gourmand, je crois, c'est pas la première fois. Hein. Chaque fois, ils se sont déplacés sur les lieux pour présenter leurs condoléances et prendre des mesures nécessaires. Bon, cette fois-ci, ils l'ont fait, mais effectivement, je reconnais que ça a été très, très rapide. Ils ont été sur les lieux très rapidement et pour voir ce qui s'est passé et échanger avec la population. Peut-être très prochainement, ils vont prendre d'autres mesures urgentes, en tout cas pour éviter encore ce scénario-là.
Idrissa Diakité, quelles mesures faudrait-il prendre et comment expliquer qu'on n'arrive pas à endiguer ces attaques et à mettre un terme à cette insécurité? Et
en fait, il y a vraiment une multitude de problèmes auxquels le Mali est confronté. Et insécurité et problèmes économiques. Et on a plongé un peu trop loin pour nous en sortir. Et au moment où on est en train de sortir la tête, on se rend compte réellement qu'il y a des paramètres que nous ne maîtrisons pas. Et notamment le paramètre des djihadistes qui ressemble à un serpent à plusieurs têtes. Et quand ça se passe, ces hommes et ces femmes ont l'art de se métamorphoser, de se retrouver et en même temps d'attaquer un ennemi commun qui est l'État du Mali. Parce que partout où il y a l'esprit de l'État malien, ces hommes et ces femmes sont à l'offensive. Et il n'y a que la communauté internationale présente ici aujourd'hui au Mali qui puisse aider le Mali réellement à s'en sortir. Mais là aussi, on est passé à côté. Parce que entre l'esprit que cultivent les forces internationales ici au Mali et ce que nous voyons sur le terrain, il y a vraiment de quoi s'interroger.
Vous pensez que les forces internationales présentes ne sont pas assez efficaces?
Non, pas du tout. Non, pas, ils ne sont pas aussi engagés. Et dans leur mission, ils ont peut-être des limites. On a demandé à ce que les forces soient encore plus robustes. Il y a eu le G5 Sahel. Mais au constat, on se rend compte que ce sont beaucoup plus les FAMA qui meurent, qui sont tués, et qui sont terrorisés, qui sautent sur des mines, que ceux qui sont venus aider le Mali.
Bien sûr.
Bon, on dira qu'ils ne sont pas venus pour mourir pour le Mali, mais en réalité, il est temps d'arrêter l'hémorragie.
Est-ce qu'il peut y avoir une autre réponse que sécuritaire, notamment dans cette zone du centre? On parle beaucoup, parfois, en ce moment, malheureusement, de conflits communautaires. Alors, la première dame a eu ces mots il y a quelques jours, hein, en disant non, il n'y a pas de conflit entre Peul et Dogon. Est-ce qu'il y a une réponse sociale à apporter, Lévi?
Oui, il y a toujours une réponse. Et la réponse n'est pas que militaire. Il faut quand même
faut
participer, justement, au développement de cette partie du Mali. Parce qu'il faut retenir une chose. C'était prévisible, hein, cette situation. Moi, j'ai fait 15 ans dans cette partie du Mali.
On parle du centre, vers Mopti, par là.
Exactement. Donc, depuis, moi, je suis allé en 2011. Déjà en 2012, je me suis dit, ah, ici, c'est une poudrière. Et ça peut éclater.
Qu'est-ce qui vous faisait dire ça en 2011?
Parce que l'injustice sociale. Voilà, l'inégalité,
la pauvreté.
Qui est là, la pauvreté, etc., l'analphabétisme. Donc,
c'est la loi du plus fort, un peu, c'est ça, finalement.
Justement, donc, C'est un tour favorable pour une situation pareille. Et malheureusement, la rébellion a été un facteur pour quand même éclater cette poudrière-là. Donc,
Lévi voilà. Était à Djéné, je crois.
Oui, j'étais à Djéné. J'ai fait 15 ans. 15 ans à Djéné, j'ai quitté 2015.
Vous étiez correspondant là-bas à Djéné, c'est
oui,
ça?
Oui, je représentais la coopérative culturelle Diabana.
Qui édite. Hein,
voilà, qui édite le journal Les Échos et qui a 10 radios à travers le Mali.
D'accord.
Donc moi, j'étais dans une de ces radios-là.
D'accord.
Donc vraiment, j'ai vu vite, parce que chaque fois que c'était possible, j'ai utilisé mon micro ou ma plume pour quand même alerter, mais bon.
Quel genre d'injustice vous voyez à cette
époque, par exemple, la gestion de l'espace, parce que Mopti, c'est quand même une zone inondée. Hein? Il y a le bourgou, je ne sais pas si vous connaissez le bourgou, c'est une herbe pour les animaux. Donc la gestion de cet espace-là...
C'est des pâturages.
Pâturages, donc ça pose un problème. La
pour
gestion
les éleveurs.
Du bourgou, ouais. Les éleveurs peuls, les agriculteurs, etc., etc. Donc, il y avait. Parce qu'en la matière, il y a une gestion.
Hein. Traditionnelle.
Voilà, traditionnelle. Que Amadou Sékou, je ne sais pas si vous connaissez, qui a laissé. Donc, il a laissé cette gestion-là, qu'on appelait la Dina. C'est un dogme que les gens appliquaient. Jusque-là, les gens appliquent cela. Donc, avec l'arrivée du colonisateur, de l'administration actuelle, donc ils n'ont pas pu quand même améliorer cette gestion-là. Et ce qui fait que, bon, avec l'évolution sociale, beaucoup de facteurs, donc les gens ne s'entendaient plus, les éleveurs...
Et l'État était absent un peu.
Avec la crise.
Sinon, au départ, l'État est là.
D'accord.
Maintenant, les représentants de l'État, est-ce que la gestion était bonne? C'est ça la question.
Voilà. Vous parlez tout à l'heure, Idrissa, que finalement, ces djihadistes sont un hydre à plusieurs têtes. Il y a quelques semaines, on avait annoncé la mort d'Amadou Koufa. Finalement, il est réapparu dans une vidéo. Est-ce qu'il suffirait de tuer un des chefs pour mettre fin à cette violence ou... Ça ne servirait à rien finalement.
Non, en fait, moi, je dirais qu'il y a, si j'étais l'État, j'allais utiliser le bâton et la carotte et discuter, échanger, mais aussi prendre soin réellement de renforcer mes réseaux de renseignement.
Ouais.
Et le renseignement ne peut être renforcé qu'à travers la population. Et quand on a ce système de maillage, on a la possibilité, en fait, de rassurer ceux qui informent et de rester présents sur le terrain, mais aussi de travailler pour qu'il y ait peu de pauvreté et assez de développement pourrait donner vraiment un autre espoir à ces populations qui sont en train de fuir ou qui se retrouvent les groupes terroristes et ils sont beaucoup plus avec ces groupes terroristes qu'avec l'État. Et c'est très dangereux.
Effectivement. Hein? Effectivement, la protection de ceux qui informent n'a pas été, en tout cas, à la hauteur. C'est pourquoi certains informateurs ont été
assassinés.
Oui. Donc du coup, tout le monde a eu peur. Et parce qu'ils se sentent en insécurité. Hein? Quand tu informes, si jamais ils apprennent...
Ils viennent raser ta famille.
Voilà. Où est-ce que tu vas aller, ta famille? Voilà. Donc, ce qui fait qu'il y a eu assez de difficultés dans le cadre du renseignement.
Oui. Effectivement. Alors, on se souvient, ça m'a marqué, on a écouté les informations, effectivement, quand la délégation est venue à Dioura. Et la population voulait rappeler l'allégeance. Hein, c'était le mot qu'a fait. Hein, la population de Dioura fait allégeance au gouvernement. Mais on entend aussi, voilà, dans vos analyses, la difficulté pour des gens qui sont finalement pris entre deux feux. Quoi.
Deux feux.
Et j'avais peut-être pour conclure ce sujet, peut-être pas conclure, puisque malheureusement, j'ai peur qu'on en reparle d'autres fois. Mais comment l'opinion réagit ici à Bamako? Comment les Bamako perçoivent dans la rue, comment ils parlent de ces attaques, de cette insécurité qui touche parfois aussi Bamako sur d'autres...
Oui,
on a parlé beaucoup de délinquance ces dernières semaines ici.
En fait, c'est plus souvent comme un affront au Mali. Parce que l'orgueil du Malien dépasse les frontières. Un. De deux, c'est un sentiment de déception par rapport aux forces étrangères qui sont ici dans le pays. Et c'est aussi souvent une grosse déception à l'égard de l'État parce que un homme comme Ibeka, qui a été choisi en son temps, on croyait à la fermeté de sa main et on l'attendait comme le Rambo, excusez-moi du terme, qui allait vraiment venir tordre le cou à quelque chose auquel le Malien n'était pas habitué. Mais malheureusement, c'est que il n'est pas maître. Il n'est pas maître de ce à quoi il fait face. Il n'a pas la télécommande de la chose. Parce que si nos forces sont faibles, si notre économie, nous ne maîtrisons pas notre économie, si le territoire est coupé, on ne nous permet pas de mettre les pieds à Kidal ou dans certaines parties du Nord sans l'amunissement, où est notre liberté et notre indépendance? Il y a des questions de la sorte qui font honte aux Maliens de tous les côtés. Mais jusque-là, tout n'est pas perdu. Parce que chaque tuerie, chaque acte macabre des terroristes permet aux gens de comprendre réellement qu'en réalité, dans notre opposition, il est important qu'on se retrouve pour se souder les coudes et éviter réellement d'aller directement dans le mur. Et on est à quelques centimètres de ce mur-là.
Voilà. Et Idrissa l'a dit, les Maliens ne connaissaient pas ça.
Non.
Ce qui fait que ça a été un choc. Un choc pour les Maliens. Et ce choc-là, je crois que les Maliens pensent pouvoir relever.
Oui.
Hein, les Maliens pensent pouvoir, en tout cas, résoudre cette affaire-là. Mais bon, comme je l'ai dit, hein, nous espérons, nous avons de l'espoir. Et nous estimons que l'armée arrivera un jour au bout de cette situation-là.
Ben, on l'espère aussi, messieurs, et toutes nos pensées vont bien sûr à ces soldats tombés au front. Alors, deuxième sujet, messieurs, on avait envie d'avoir votre regard sur l'actualité d'un pays voisin. Pas toujours un bon voisin, bon, un voisin quand même, l'Algérie. Depuis plusieurs semaines, hein, les Algériens manifestent. Alors d'abord, c'était contre un cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika, mais celui-ci a finalement annoncé qu'il ne serait pas candidat. Et l'élection présidentielle a été reportée. Alors cela n'a donc pas suffi à stopper les manifestants qui désormais réclament une transition sans Abdelaziz Bouteflika et la fin du système. Messieurs Idrissa Diakité, ce vacillement du pouvoir algérien vous inquiète-t-il ici au Mali? Avec quel regard vous regardez?
Stéphanie, c'est plus qu'inquiétant parce que en fait, et même les derniers comportements, les dernières actions sur le territoire du Mali au niveau des djihadistes, est bien sûr liées, moi, mon analyse à cette situation, parce que les mecs se disent tapons fort, occupons notre territoire, parce que si ça vacille du côté de l'Algérie, où il est supposé, on pense avoir des nids.
Des bases arrières
de ces terroristes-là du côté de l'Algérie, Donc, dès que ça vacille là-bas, au moins le nord du Mali est un territoire pour nous. Oui. L'Azawad va se concrétiser, entre guillemets. Et c'est là où il faut venir frapper jusqu'à l'entrée du sud, c'est-à-dire vers Ségou et la sortie de Mopti.
Finalement, on n'a pas changé de
sujet. L'Algérie, le Mali suit de très près ce qui se passe en Algérie. Et les acteurs du nord du Mali suivent de très près ce qui se passe en Algérie. Mais quoi qu'on dise ou quoi qu'on fasse, c'est que l'Algérie, et d'après Bouteflika, ne sera pas la même. Donc, en ce moment, l'État malien aussi doit déjà commencer à réfléchir à des formules magiques ou humaines pour éventuellement verrouiller le système avec la communauté internationale, je le dis. Parce que depuis 2012, le Mali ne peut pas mettre pied à Kidal.
Ouais.
Et c'est une situation très, très inquiétante.
Lévi Dounion, sur le plan intérieur, comment vous observez cette transition, ces mouvements en Algérie? Est-ce que finalement, on se rend compte que l'immobilisme, les systèmes qui perdurent comme ça de nombreuses années, ne finissent toujours par vaciller un peu?
Oui, moi, à mon avis, hein, les Algériens sont en train de dire au clan Bouteflika, c'est assez.
Tournez la page.
Il est venu au pouvoir depuis avril 99, je crois. Et aujourd'hui, c'est 20 ans. Et imagine toute cette jeunesse algérienne qui ont approximativement moins de 20 ans ou un peu au-delà, en tout cas moins de 30 ans, ne connaissent pas ce qui s'est passé avant Bouteflika. Donc c'est lui seul qu'on connaît. Et je crois, ils sont en train de dire, papa, c'est assez, allez vous reposer, vous avez suffisamment travaillé. Et je crois que le clan Bouteflika doit comprendre cela et lui offrir une meilleure sortie. Sinon, autrement, ça peut passer bon.
Alors on rappelle quand même que le Mali, lui, a bien fait, déjà fait sa révolution, c'était dans les années 90. Voilà, je tenais à souligner. Et alors, il paraît que les échos ont joué un grand rôle à ce moment-là.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les échos, on a fêté les 30 ans du journal le dimanche passé.
Ah, mais j'ai pas été invité. On va rebeloter.
Vraiment, ça, on va rebeloter. Donc, nous avons fêté les 30 ans. C'est effectivement le premier journal privé au Mali. Créé par l'ancien président Alpha Omar Konaré. Donc c'est un journal de combat qui en tout cas qui a participé grandement à l'avènement de la démocratie au Mali.
C'est voilà. Pour ça que je voulais souligner, voilà, parce que je pensais au combat des Algériens aussi, hein, pour renouveler leur démocratie. Alors bon, c'est pas gagné, hein. Abdelaziz Bouteflika est dans une lettre confirmée qu'il resterait président après l'expiration de ce mandat. On enregistre cette émission mardi 19 mars, je le précise.
Mais le problème, c'est que est-ce que Bouteflika entend ce qui s'est dit dans la rue? C'est ça la grande question.
Et puis, vous parlez au sens propre ou au sens figuré?
Au sens propre.
Je me pose la question, est-ce que c'est lui et l'acteur réel de tout ce qu'on on balance en termes d'informations, d'action,
de communication,
et de communication.
Il ne parle pas beaucoup, mais il écrit. En tout cas, on ne sait pas si c'est lui, c'est ça.
C'est ta voix.
Je ne peux pas vous dire, messieurs. Je n'ai pas l'information. Il faudrait qu'on demande à nos confrères algériens qui, même eux, parfois, ne savent pas trop.
Bon. C'est à voir.
Et pour vous, Idrissa Diakité, donc, si c'est pas Bouteflika, on connaît le clan hein, qu'il y a derrière lui, le système. Hein. Est-ce que vraiment ce système peut faire sa mue en restant au pouvoir?
C'est souvent compliqué des situations comme ça. Quand l'Union soviétique a éclaté, moi j'étais dedans et j'ai vécu ce système. Et 15 républiques, les républiques se sont disloquées, chacun a voulu prendre son destin en main. Mais arrivé à un certain moment, on s'est rendu compte. Mais le système russe et soviétique était ficelé autour du noyau russe. Et il y a, quand ça se passe comme ça, on a toujours besoin d'un homme
au-dessus de l'eau.
Qui est le noyau au-dessus de l'eau. Et tout le monde pourra se retrouver d'une façon ou d'une autre autour de cet homme. Bon, je ne sais pas si en Algérie il y a un individu, un politique de ce genre, ou un militaire, ou une figure de ce genre. Mais quand ça se passe, dès que cet homme jaillit, la situation se calme.
Merci, messieurs. On va passer quand même au troisième sujet. Je suis impatiente de vous entendre là-dessus. Un dernier sujet soumis à vos commentaires. Non, c'est quelques minutes, la crise des gilets jaunes en France. Ah, vous avez sûrement entendu parler de l'acte 18. Aura été l'acte trop. Depuis 18 semaines, plusieurs milliers de Français manifestent habillés d'un gilet jaune de sécurité pour exprimer leur ras-bol, leur difficulté à finir leur fin de mois. La réponse du gouvernement était de renoncer aux taxes, notamment sur le diesel, contesté, mais aussi d'ouvrir un grand débat, sorte de conférence nationale Made in France qui touche à sa fin, mais cette conclusion a été gâchée par une nouvelle vague de violence samedi sur les Champs-Élysées où il est désormais interdit de manifester. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé il y a quelques jours des mesures fermes, notamment la hausse des amendes pour participation à manifestation illégale. Tout d'abord, messieurs, les revendications des Gilets jaunes vous paraissent-elles claires? Quel regard vous portez sur cette actualité, Lévi Dounion, depuis Bamako?
Oui, je trouve que c'est assez clair quand même. Parce que, à les entendre, on ne peut pas être cinquième puissance du monde, mondiale.
Voire sixième. Hein.
Voire sixième, d'accord. Et vivre dans une pareille situation. Parce que, pour moi, les gilets jaunes, entre guillemets, c'est les débrouillards de la France. Donc tu ne peux pas comprendre être dans un pays cinquième puissance et vivre comme ça. Donc d'où leur mécontentement. C'est juste un mécontentement. Mais faudrait-il que bon, Macron et les autres entendent cela.
Et vous pensez que les dernières, voilà, le grand débat, d'ouvrir des discussions, d'essayer de faire quelques mesures comme ça, fiscales, en tout cas d'enlever les taxes qui fâchent?
Je doute.
C'est pas une bonne réponse.
Je doute. Il faut autre chose. Je ne sais pas quoi, mais il faut autre chose. Mmh. Mais ça, parce que les débats ont commencé il y a deux, trois semaines, hein.
Oui, tout à fait, le grand débat
voilà, a commencé. Mais pourtant, la mobilisation ne faiblit pas. Le dimanche dernier, ils étaient trop nombreux dehors. Et ils ont même cassé, ils ont détruit beaucoup de choses. Des
dans le Fouquet's, le fameux restaurant Fouquet's.
Exactement.
Quand vous avez vu ça, quand vous avez vu le Fouquet's,
Idrissa. Ah, mais j'ai dit, c'est ça rappelle la colère de 91 ici à Bamako, où les points les plus fréquentés se sont retrouvés en feu, en flamme. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que les gilets jaunes n'ont presque pas de figure. Et c'est très dangereux de telles manifestations.
Ils revendiquent même le fait d'être dirigé par personne, d'être un mouvement spontané.
Merci.
Comment vous vraiment, quel regard vous portez sur cette mobilisation un peu...
Je veux qu'on démasque réellement ce qui se trouve derrière les gilets jaunes. Parce que sans mouvement politique, sans mouvement associatif, je me pose la question, comment des hommes peuvent se retrouver comme ça?
Et justement, j'allais vous dire la question, Idrissa, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un effet réseaux sociaux? C'est aussi que les réseaux sociaux changent la donne.
C'est vrai. Les tics, les antiques, et on se rend compte réellement que ça communique beaucoup sur ce plan. Et eux-mêmes, ils sont leurs propres reporters. Et la plupart des images qu'on retrouve souvent sur les télévisions et les trucs, ce sont en général des images filmées par les manifestants eux-mêmes. Ah ben, on croise.
Ça vous inquiète. J'ai l'impression que ça vous inquiète un peu quand même, Idrissa.
Ça m'inquiète. Oui. Parce que, en fait, la France, et qui est la. Comment on appelle ça? Avec la principale couverture. Et en termes de défense au nord du Mali ou bien au Sahel, et si la France se retrouve dans une telle situation, est-ce que cette France, dans cette situation, peut apporter son aide en termes de sécurité à un pays? C'est la grande question. Et puis, est-ce que nous savons aussi toute la réalité de cette situation-là?
C'est-à-dire, vous pensez à...
En fait, ce que nous voyons ce que nous voyons. Mais en dessous, est-ce que ça ne dénote même pas l'affaiblissement réellement du système étatique français?
Alors, vous disiez dans mes pensées, c'était ma question justement, Idrissa, j'allais vous poser, est-ce qu'il n'y a pas un essoufflement? Alors j'ai mis un essoufflement, moi, du système français.
Il faut je vais tout le temps réussir, hein, ouais. C'est que Gorbatchev a appelé la perestroïka. il faut recentrer réellement la marche de l'État et revoir le système carrément. Comme chez nous aussi, on doit revoir notre système pour réellement éviter l'inévitable, la cassure. Et cette cassure, même les manifestants aussi n'ont pas intérêt à cette cassure.
Bah. Vous savez, tout est parti des réseaux sociaux. Tout est parti des réseaux sociaux. Et en France, ce n'est jamais interdit de marcher.
Alors, il y a eu des manifestations interdites. Maintenant, par exemple, les Champs-Élysées sont interdites, des fois, les gilets jaunes bravent aussi.
Mais ils sortent quand même.
Voilà,
Donc, tant qu'il y a ces deux situations, tant que les gens ne sont pas satisfaits, ils vont sortir. Et de plus en plus, ils parlent de révolution. C'est quand même assez grave. Quand le peuple sort, fait des graffitis dehors, révolution, révolution, Macron dehors, Macron, etc. Moi, je crois que c'est inquiétant.
Mais alors justement, Macron voulait faire la révolution. C'était le titre de son livre Campagne.
Est-ce la même révolution?
Je ne peux pas vous dire, mon cher, mais on l'a vu comment il est arrivé aussi. Il a fait quand même une petite révolution dans le champ politique français, puisqu'il a écarté la droite, le PS, le Parti Socialiste en France, et aujourd'hui presque mort-vivant. Est-ce que, selon vous, Macron peut... Alors, j'ai l'impression que quand je vais poser la question, j'ai déjà la réponse, mais est-ce que, selon vous, Macron peut révolutionner justement ce système français, le réformer?
Ça dépend. Ça dépend de ce qu'il va proposer aux Français. Et si les Français sont d'accord avec lui, bon, il peut révolutionner. Mais si jamais ils proposent quelque chose qui va à l'encontre de leur désir, bon, il va échouer. Et déjà, les gens le voient, bon, échouer, hein, certains. Moi, je ne le dis pas, mais certains le voient déjà dans cette situation.
Mais ce serait dramatique, je ne sais pas, Idrissa, mais je vous rappelle quand même, messieurs, que les deux derniers présidents en France, hein, Nicolas Sarkozy et François Hollande, n'ont fait qu'un mandat à chaque fois. Ils ont été chassés au bout de 5 ans. Est-ce qu'il risque d'attendre Emmanuel Macron, Idrissa Diakité?
Oui, mais moi, je vois très difficilement Macron s'en sortir au rythme où les choses vont. Mais il faut peut-être penser à la pièce... de réchange, c'est-à-dire quel est le politique qui va revenir, parce que il a pratiquement réussi à amputer les roublards du système et sans avoir une carte de réchange. Donc on se pose la question, qu'est-ce qui va arriver si Macron partait comme ça aussi? Et peut-être faudrait-il trouver un système de réchange à l'interne de son système qu'il a voulu créer. Et là aussi, ça s'est éclaté à 2 ou 3 niveaux, parce que beaucoup de ses compagnons de départ ne sont plus avec lui.
Ils sont partis, oui, tout à fait.
Donc, la France est dans une situation très difficile.
Pour conclure,
parce
monsieur,
que ce qu'on ne dit pas assez, j'ai l'impression que Macron a un peu poussé...
Trop le bouchon.
Voilà. Et il a poussé son précédent.
Il a trop réformé finalement, c'est ça, voilà, trop vite. Voilà, c'est le rythme des réformes.
Justement.
Trop vite.
Donc les Français n'étaient pas prêts
tout
pour ça.
Tout à fait prêts.
J'ai l'impression qu'il y a eu un fil rouge dans cette émission,
c'est
messieurs. C'est face aussi au monde qui change beaucoup. Finalement, tous les États dont on a parlé sont aussi confrontés à de nouveaux défis. Voilà, que ce soit avec les questions des réseaux sociaux, la question de l'insécurité. Voilà,
les choses sont en train de changer, les hommes doivent changer, les politiques doivent changer, ouais. Et la vie doit changer.
Ouais. Mais est-ce que même, on se pose la question, est-ce que les politiques n'ont pas dessus? Partout, les politiques.
En conclusion, c'est ça.
Voilà, est-ce qu'ils n'ont pas dessus?
Les
gens veulent une autre voie.
Idéologique aussi.
Idéologique.
C'est que c'est important de parler d'idéologie.
Mais est-ce qu'un autre monde est possible?
Alors, à vous de répondre.
On va pas l'inventer ce soir, l'autre monde, mais on va vous laisser, chers auditeurs, y réfléchir. On arrive à la fin de cette émission. Alors, je dis un grand merci au monsieur derrière la vitrine, si je me rappelle bien de son nom, c'est Adama Dembélé.
Amadou
Dembélé, excusez-moi.
Amadou Dembélé, et puis de l'autre côté, c'est monsieur Ouédraogo.
Merci
chef
beaucoup.
Technique de la chaîne 2.
Eh bien, merci monsieur Ouédraogo de la chaîne 2. Merci de nous accueillir. Merci beaucoup monsieur Dembélé d'avoir réalisé brillamment cette émission, il faut dire. Hein. Monsieur Dembélé est le meilleur technicien de la chaîne 2, c'est ce qu'on m'a dit en arrivant. Je suis ravi d'avoir eu le meilleur. Un énorme, immense, un grand merci à Idrissa Diakité, correctement historique, et je le rappelle, très fidèle d'Africa numéro 1 à Bamako. Et promis, Idrissa, on revient bientôt à Bamako. En FM, journaliste pour le RTM, sans qui cette émission n'aurait pas été possible. Merci aussi à notre confrère Lévi Dounion, directeur de la publication du journal Les Échos. Merci encore à la chaîne 2. Merci à monsieur Kodjo pour son accueil chaleureux et très professionnel. Normalement, on se retrouve lundi pour une nouvelle émission du journal des auditeurs. Restez bien à l'écoute des programmes d'Africa numéro 1, la seule, l'unique, la vraie radio africaine. Kambe.
Bye bye. Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.